D'accord.
Lorsqu'on dit que le fait que Napoléon ait une nationalité autorisée, sans l'arrivée des juifs français, de judaïsme français, aller à Saint-Père, à cause de la civilisation.
Sans l'arrivée des juifs français.
Des juifs français, pardon.
Oui.
De judaïsme français, aller à Saint-Père. Mais est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, réprimer l'émancipation des juifs par Napoléon?
Pas l'émancipation, l'assimilation. Et Napoléon, en fait, c'est la première république qui a fait le, j'allais dire, statut des Juifs. Le Sanhédrin, mais le Sanhédrin a été réuni par Napoléon à Paris. Napoléon n'a pas eu le temps de régler la citoyenneté des Juifs. C'est la constituante qui l'a fait après Napoléon. On l'appelle le Sanhédrin de Napoléon. Et Napoléon a voulu émanciper les Juifs. Il leur a posé un contrat. Il leur a dit... À quelles conditions vous accepterez d'entrer dans la nation française? Et la condition, c'est lui qui l'a donnée, à condition de quitter la nation juive. Les juifs ont accepté le contrat. Et c'est-à-dire qu'il leur a inventé une identité à la manière des catholiques et des protestants, c'est-à-dire vous serez des Français de confession religieuse israélite, mais vous quittez la nation juive. Les chefs de la communauté, rabbins et présidents y compris, je peux vous donner des noms, même. Le principal des rabbins était un rabbin alsacien, le principal des présidents était un président de la communauté des Sfaradiques du Sud, c'était, attendez que le nom me revienne, Paul Fonderi, c'était, ça va me revenir, ses descendants ont fondé une grande banque, c'est bien connu, et puis ils se sont convertis. Comment ils s'appelaient? Bon, ça va me revenir. Eh bien, c'était des grands hommes, ces gens-là, des grands juifs. Ils ont accepté un contrat. Vous serez français dans la cité et juif dans la vie privée. Vous aurez vos synagogues comme les catholiques ont leurs églises. Mais vous ne faites plus partie de la nation juive, vous êtes français. Vous avez vu cette mutation d'identité qui se passe. Okay. Les tirs.
La question de la liberté de pratiquer.
Oui, mais à condition que leur nation ne soit plus la nation juive. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les premières générations ont fait tout ce qu'elles ont pu pour tenir le coup. C'était, j'ai beaucoup étudié les textes de ce contrat dans les actes du Sanhédrin de Napoléon, et ce que Napoléon voulait faire, okay, il lui a réussi. Je vous donne un exemple. Vous savez ce qu'on appelle le pâté d'alouette en France? La moitié un cheval, la moitié une alouette. Bon, c'est ce qui s'est produit. On va faire l'israélite français, à moitié israélite, à moitié français. Mais la culture française avait un poids tel qu'elle a avalé la partie israélite. Qu'est-ce qu'il est resté? Il restait un culte qui allait en s'assimilant. Et vous savez très bien ce qui s'est passé avant la guerre. Vous connaissez la France d'après la guerre. Moi, j'ai connu ça avant la guerre. Okay, c'était un judaïque qui s'assimilait, qui se perdait complètement. Et des bribes de folklore, des petits souvenirs. La culture était française et la partie juive, il était plus loin. Je vous donne un exemple. Vous aviez énormément de normaliens juifs, c'est qu'il y a ces normaliens, de polytechniciens, qui apprenaient la philosophie d'un Descartes de la maturité, mais qui ne connaissaient Rabbi Akiva que de l'âge de la bar mitzvah. Ils avaient un Rabbi Akiva infantile à confronter avec un Descartes mûr. Ça n'a pas tenu le coup. Est-ce que c'est clair? Et alors, ces juifs se sont assimilés, tout simplement. Et je te prends la situation jusque à la veille de la guerre mondiale. Après, sont arrivés les juifs des ghettos d'Europe de l'Est, les juifs des ghettos d'Afrique du Nord, et ça vous fait une vie juive apparemment très vivante, mais l'assimilation continue. Vous avez 10% de juifs qui fréquentent les cabarets juifs, les épiceries juives, les synagogues juives, mais tout le reste ne vont qu'au cimetière juif. C'est clair, hein? Ça s'assimile. L'assimilation, ce n'est pas une catégorie religieuse, c'est une catégorie nationale. Les juifs ne sont plus juifs, bien que pratiquants du judaïsme. C'est ça que Napoléon cherchait. Et il y est arrivé. Je vous ai cité une fois, j'ai entendu parler de Zadok Khan, okay? un des grands rabbins de France au début du siècle. Et on lui demandait... je peux vous dire un grand rabbin, parce que j'ai lu des préfaces qu'il a écrites, d'ouvrages écrits par des rabbins de Pologne d'ailleurs, qui est édité à Paris, et on voit que c'est un Talmid Chacham qui écrit. On lui a demandé, à son époque, est-ce qu'il y a encore un espoir pour la communauté juive? parce qu'elle s'assimilait. Alors là, il n'y a pas d'espoir. Mais il faut continuer à faire comme ça. Aujourd'hui, vous enlevez tous les descendants des Juifs de l'Est, d'Afrique du Nord, en France, il ne reste rien. C'est ça que je suis en train de dire.
Bien sûr,
mais voilà. La troisième éventualité, rentrer chez soi, ils n'ont pas envisagé. Alors que quand il y a eu les pogroms au XVIIIe siècle en Russie, les Juifs tous ont réagi. Ils disaient, c'est comme ça, on rentre chez nous. Vous avez compris? C'est ce que je veux vous dire, il ne faut pas trop généraliser, parce que toutes les exceptions sont possibles. Je connais énormément de Juifs, alsaciens ou marocains, qui vivent en France, qui sont sincèrement juifs et qui se considèrent comme en exil, qui se considèrent comme la diaspora d'Israël, mais tout se passe comme si c'est pas vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Eh bien, ça m'échappe ce que je veux dire juste avant, mais je voudrais que ça me rappelle. Il ne faut pas généraliser, mais tout se passe comme si se dévoile de notre temps que pour beaucoup de Juifs qui ont répété pendant 2000 ans, l'année prochaine à Jérusalem, alors que c'était impossible, leur foi était entière. Dès que c'est devenu possible, ils se dévoilent qu'ils n'y croyaient pas. La preuve, c'est qu'ils ne viennent pas. C'est clair, c'est pas plus compliqué que ça. Que ça soit difficile, tout le monde le sait. Une alliance, ça se prépare. On a mis 2000 ans pour préparer un peu. Que ça soit difficile, qu'il y ait des obstacles, il y a un problème d'identification. On sait très bien, quand on dit l'année prochaine à Jérusalem, si on a décidé que c'est vrai ou pas. Je ne sais pas si c'est clair. Alors il se dévoile 2000 ans après que c'était un pieux mensonge. Moi je suis très inquiet parce que les chrétiens nous attendent au tournant. Vous voyez ? Leur schisme, c'est-à-dire il n'y a plus de Jérusalem, il y a Rome. Mais voilà que les Juifs font la même chose. Il n'y a plus de Jérusalem, il y a Sarcelles. Hein ? C'est le Rome local. Il y a une espèce d'insincérité profonde. Il m'arrive souvent de dire aux Juifs de France, vous dites que vous attendez le Messie, mais c'est un pur mensonge, c'est lui qui vous attend. Voilà, je vous dis ça un peu brutalement, parce qu'en fait, je crois que c'est très sincère, la foi des Juifs de Gola, de dire qu'ils attendent le Messie. Je suis persuadé qu'ils sont sincères, mais il s'avère que c'est faux. Ils n'attendent rien. La preuve, c'est que voilà que c'est possible, ils ne bougent pas. Et par rapport à 2000 ans de fidélité, c'est énorme comme infidélité. Et alors là où ça dépasse tout, c'est quand ils nous citent des versets. Ils ne s'aperçoivent même pas que la Bible est en hébreu. Ils nous les citent en français, en plus. Et je vous répète souvent, il ne faut pas vous tromper parce que je vous parle français, c'est pas ma langue. Okay ? Et essayez d'entendre un juif algérien vous parler l'hébreu. Si vous voulez, je peux vous parler même le judéo-arabe. Mais comme il arrive que je parle français, alors je vous parle. Mais ne croyez pas que la Bible est en français. Hein, même si vous la comprenez avec moi ou avec d'autres, grâce au français. C'est en hébreu qu'il faut la comprendre. Alors cette histoire, c'est une histoire de fou. Vous avez compris le problème ? Une histoire juive. C'est-à-dire, tant qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Mais dès qu'on peut, on se cherche des alibis dans la Torah, contre la Torah, c'est énorme ça. Il y a un côté rassurant. Parce que ça dévoile que les malheurs qu'atteignent les Juifs, c'est les Juifs qui en sont responsables. Au moins, c'est pas le bon Dieu qui est anti-Juif, c'est les Juifs qui sont anti-Juifs. Je ne sais pas si c'est clair ce truc-là. C'est eux qui sont responsables. Et alors, il ne faut jamais calomnier les Juifs. Les rabbins vous permettent. Mais les Juifs, ils sont victimes d'un bourrage de crâne énorme. Et regardez ce qui se passe chez les Lubavitch. Et Dieu sait que c'est un mouvement que j'aime beaucoup. C'est des braves gens, c'est des grands cœurs, petits cerveaux mais grands cœurs. Et ils aiment les Juifs, ils s'occupent des Juifs, ils sont les franciscains du judaïsme. Il n'y a pas plus charitable que c'est vrai. Ils nous ont inventé un Messie qui n'est qu'un rabbin, un très grand rabbin, mais c'est pas un Messie, c'est un rabbin. Et en plus le corps, les vieux, les malades, il est paralysé, ils sont complètement siphonnés. Je ne sais pas s'ils s'y vont aller. Et la première tâche du Messie, c'est de faire l'état juif. Alors, c'est pas lui qui l'a fait. Alors, j'explique ça avec un chassid que j'aime beaucoup d'ailleurs, il m'a dit, oui, non, c'est pas lui qui l'a fait, mais c'est grâce à ses prières que ça s'est fait. À ce moment-là, on ne peut plus discuter. C'est pas tout. Alors voilà, vous avez une population juive de grande qualité, les Lubavitch du monde entier. C'est vraiment de grande qualité. De quoi ils s'occupent? De porter la vérité aux Américains, alors qu'il faut faire l'état. Je ne sais pas si vous voyez le Et bien sûr, c'est important ce qu'ils font. Mais c'est rien à côté de ce que Dieu leur demande dans leur Torah. Et une fois qu'Israël sera fait, grâce aux Lubavitch aussi, on s'occupera des Américains, pourquoi pas? Mais ça, c'est le temps à venir. Alors, vous voyez ces espèces d'impression que ça grince. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, c'est pourquoi c'est important que vous étudiez par vous-même. Ne vous laissez pas avoir par les propagandes piétistes. La Torah, c'est la Torah. Et vous l'étudiez avec votre tête. Descartes n'a pas dit « il pense donc je suis », mais il a dit « je pense donc je suis ». Alors, ne tombez pas dans ces mêmes erreurs que les anti-israéliens. Quand ils vous disent, mais mon rabbin dit que, et mon cher rabbin, nous, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez compris le problème. Ne tombez pas là-dedans. Hein. Vous avez toute la vie pour apprendre. Mais au moins, vous commencez à penser par vous-même. Et d'ailleurs, je suis persuadé que ces choses-là, plus ou moins, vous les avez comprises par vous-même. Ce qui vous gêne, et je le comprends, c'est très honorable, c'est que vous connaissez des gens dans votre entourage, famille ou amis, qui sont des gens respectables, d'autre part, et qui tombent dans ce piège. Alors, ça vous pose un problème. Et eux, comment se fait-il que? Eh bien, vous n'êtes pas d'eux, laissez le bon Dieu s'en occuper. Moi, ce que je peux vous citer, c'est un enseignement du Rav qui nous a beaucoup aidés. Il nous a dit, je préfère un juif sans barbe qu'une barbe sans juif. Méfiez-vous des barbes. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Plus la barbe est longue, et moins il y a de Torah. Ah, il vaut mieux la Torah. Alors la Torah, vous êtes privilégié dans votre génération pour pouvoir l'étudier. Je ne sais pas si vous rendez compte du privilège que vous avez, vous pouvez l'étudier à Jérusalem, en hébreu, avec des dictionnaires, avec des maîtres. Nous, à votre âge, dans votre génération, on n'avait ni dictionnaire, ni Jérusalem, ni l'hébreu, ni rien. On avait la fidélité au judaïsme, en hébreu bien sûr, mais clair. Dès que le moment est venu du retour, on rentre. Et alors, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, 2000 ans d'inertie a fait que ça s'est passé, on ne s'est pas rendu compte, on fait comme ça, on ne se rend pas compte, mais on en est parasite. Je veux dire, cette assemblée du judaïsme français qu'on va recevoir à Jérusalem, 350 personnes. Imaginez ce que ça coûte au peuple juif. Une réunion de 3 jours, avec 350 personnes, aucune des villes. Ok, hein?
Ben,
oui. Et alors, et chacun qui vient avec son avion privé, ses gardes de chambre, enfin, ses gardes de corps, ses femmes de chambre, bon, ben, bref. Et alors, pour dire quoi? Eh bien, nous voilà. On est à les routes, c'est nous. Et alors, tu viens à Jérusalem, la capitale éternelle du peuple, qu'est-ce qu'ils vont entendre, les pauvres? Bien.
Ben, j'aimerais bien avoir des places. Pour
non, non, on va faire ça poli, c'est gentil, à l'israélienne. Ouais. Bon. Alors, voilà la première indication, c'est ce qui se passe au niveau de Sarah. Je répète les deux indications. Il y a un fléchissement. Je ne voudrais pas dire de la foi, parce que Sarah garde une foi entière, que ce que Dieu a promis à Abraham, il le fera avec Abraham. Mais elle dit, c'est moi qui ne peux pas. Vous voyez le problème? C'est la communauté juive qui continue à croire en Israël des patriarches. Mais c'est la communauté qui dit, moi, j'y arrive pas. Alors peut-être que la mairie française va prendre en charge les valeurs de la prophétie hébraïque. C'est ce qui s'est passé avec Napoléon. Et c'est ce que Napoléon voulait. Et Napoléon l'a réussi. On n'a aucune idée de ce que le judaïsme français, disons de France, a donné à la France. Actuellement, vous savez, j'ai connu 4 ou 5 générations de mouvements de jeunesse de France, depuis la guerre. je peux vous dire que ce sont des gens de grande qualité. Ça devient des cadres de la société française. C'est un cadeau qu'on fait à la France. Je peux vous citer des noms, mais je ne citerai pas, qu'ils ont envisagé de faire la Alia. Mais ils se sont rendus compte que dans un pays en construction comme Israël, ils auraient pas un profil de carrière du tiers de ce qu'ils pourraient avoir en France. Alors ils préfèrent l'avoir en France. Ils préfèrent l'avoir en France, ils attendent la retraite, et ils pleurent du jour, du matin au soir, parce que leurs enfants se marient à l'église. Et parce que leurs enfants sont devenus des bons Français. Mais les Français, c'est très bien, mais c'est les Français. Les Juifs, c'est les Juifs. Vous avez compris, voilà. C'est un problème insoluble. Vous ne pouvez pas mettre la jeunesse juive confrontée à la culture française et lui donner deux consignes contradictoires. Tu es français, mais tu n'es pas français. C'est pas possible, c'est clair. C'est ou l'un ou l'autre. Tant qu'il n'y avait pas d'État d'Israël, on était des résistants. Et Dieu sait qu'on a perdu les plumes. Maintenant qu'il y a l'État d'Israël, continue à s'entêter dans cette névrose, c'est de la schizophrénie spirituelle. Je sais pas si c'est clair. Et alors, encore une fois, c'est pas tellement les Juifs qui sont responsables. Ils sont matraqués à la synagogue par des rabbins qui leur répètent ces shturges-là. Et ces rabbins-là n'ont qu'un seul souhait, c'est d'avoir leur retraite française pour s'installer ici, dans une ville de développement, autant que possible vers Sliapitoir, et que leurs enfants disent Kaddish en Israël. Nahon ? Mais quand ils arrivent ici, chaque fois leur retraite, je vous garantis qu'on les accueille tard. Et en plus, ils ont assez d'argent pour s'acheter des appartements à l'avance, et ils font monter le prix des appartements, et les Israéliens ne peuvent pas les acheter. Je sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où ça va. C'est clair ? Donc, oui, c'est un drame. Et quand mon Dieu s'énerve, et qu'il leur envoie un petit Haman sur mesure, alors ils se mettent à se plaindre. Et celui-là, il se prépare en Europe. Déjà en Europe de l'Est, c'est très grave pour les Juifs, et on fait tout ce qu'on peut pour les sauver, mais quand ça va arriver à l'Europe de l'Ouest, alors, on ne sait pas où on les mettra. Il y a trop de Russes, il n'y a pas de place pour les Français. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vous voyez la responsabilité des rabbins, je ne parle pas tellement des Juifs. Qu'un président du Conseil d'Histoire défende les droits de citoyens français, des fidèles de la communauté, c'est son devoir. Mais que le rabbin fasse semblant que c'est vrai que les Juifs sont des Français, et surtout qu'au nom de la Torah, il vaut mieux aller en yeshiva comme Israël, ça c'est très grave. À la rigueur que la yeshiva soit en Israël, même dans les ghettos de Nebrak, peu importe, ils sont à l'abri. Mais cette espèce de conduite que je devine un peu dans vos questions, et j'en ai bien expérience parce que chaque année je les entends, ces questions, il faut que vous ayez les yeux ouverts, c'est une maladie mentale. Qu'est-ce que tu veux demander ?
Oui, j'ai une question sur à propos de l'assimilation. Je sais par exemple en Allemagne, un juif ne dira pas qu'il est juif allemand. Il dira je suis juif et allemand. Alors qu'un français dit qu'il est juif français. C'est-à-dire qu'il y a une fusion entre son judaïsme et sa culture française. En Allemagne, ils font un parallèle.
C'est pas très exact. Il y a les deux cas dans les deux cas. Mais je veux dire, il faut savoir que les Allemands existent par eux-mêmes, les Français existent par eux-mêmes, et eux ne se trompent pas. Je vais raconter une histoire, je l'ai racontée l'année dernière, peut-être au début de l'année je vais la raconter, parce qu'elle m'a beaucoup frappé. Moi j'ai vu un ami qui était juif polonais, il s'était enfui de Pologne dans les années 20, il habitait l'Allemagne, il était devenu professeur à l'université de Berlin, et au moment du nazisme, il est monté en Israël. Il était professeur à l'université de Jérusalem, quand je l'ai connu, il était déjà assez âgé, il m'a raconté la scène suivante. Dans les années 30, dans les années 20, il était devenu allemand. Dans les années 30, il avait des amis à l'université allemande, le nazisme a commencé. Alors, un de ses amis lui a dit « Enfuis-toi, sauve-toi, c'est très grave l'islamisme pour les juifs. Et si tu as un enfant en Amérique, va en Amérique. » Alors l'autre qui réagit en disant « Moi, qu'est-ce qu'on peut me faire ? Je suis citoyen allemand. Je suis professeur à l'université de Berlin, je suis allemand, qu'est-ce qu'on va faire ? » À la longue, à l'homme, dans la conversation, l'allemand s'est un peu énervé, parce qu'il savait très bien que c'était un juif polonais qui avait obtenu la citoyenneté allemande. Alors l'allemand dit au juif, mais si toi tu es allemand, moi, qu'est-ce que je suis ? C'est l'allemand qui parle. Vous savez ce que le juif lui a répondu ? Toi t'es goy. Alors voilà la situation. L'allemand, c'est le juif polonais. Et l'Allemand, le pauvre, qu'est-ce qu'il est, Goy? Résultat, la fureur de l'Allemagne. En ce temps-là, c'était le fureur. Mais c'est comme ça que ça marche. Les Juifs rendent fous les goïms, complètement. Tu n'es pas plus fou. Et en plus, en France, ils ont la coquetterie lorsqu'ils s'arrêtent aux Français. Mais je suis plus français que toi. Mazé, plus français que toi. Et qui c'est qui parle? Un ancien descendant de Marrakech ou de Tripoli. C'est fantastique. Vous avez compris? De Tripoli sur Volga. Alors voilà, il faut ouvrir les yeux. Ça n'existe pas, un homme qui soit à la fois juif et français. Ce qui existe, c'est un juif qui est de culture française et qui a reçu un cadeau, la citoyenneté de l'État français. Ça fait pas lui un français. C'est un juif citoyen de l'État français. Moi, je dois faire les. Alors, les premières générations, après l'émancipation, c'était clair. Et finalement, on s'est fait avoir. C'était un enjeu impossible à tenir. J'ai connu encore des grands présidents d'Alsace-Lorraine, avant la guerre, qui étaient comme ça, des juifs, très juifs, citoyens français, et des grands citoyens, des serviteurs de l'État français. Premier président de la Cour de cassation, je peux vous donner le nom, Léon Meiss, de Metz, de Lorraine. Actuellement, le premier président de la Cour de cassation, c'est Pierre Drahi, de Philippeville, en Algérie, qui est aussi un juif. C'est des grands français au service de l'État. Mais c'est différent, ils étaient juifs. Et ils ne se sont jamais pris pour des Français. Sinon, lorsqu'un anti-juif faisait semblant de dire « vous n'êtes pas Français ». Alors, ils ne cherchaient pas à me dire que dans l'heure. Ils disaient « je suis Français, voilà un cas d'identité ». Mais ils savaient très bien que c'était citoyen français. Hein. C'est mon cas d'ailleurs. Je suis même officier de réserve de l'armée française. Ça n'a pas fait de moi un Français. Si je n'étais pas israélien, je serais algérien, imagine. Ah. Alors, arabe, on veut pas. Et français, on veut, c'est du racisme. Vous avez remarqué ce qui est arrivé aux juifs nord-africains en France? Arabes, ils ne veulent pas être. Mais français, ils se croient. C'est du racisme anti-arabe. J'ai compris ce que je dis. Voilà, c'est clair. Alors, retenez en tout cas cela pour la semaine prochaine. Et on étudiera le texte.